On continue notre étude justement de la mort et on arrive à la parabole donc de Luc 16, bien connue, celle de l'homme riche, vêtu de pourpre et de fin lin, qui menait chaque jour une joyeuse et brillante vie. Le pauvre Lazare était couvert d'ulcères, était couché à son portail, il aurait désiré de se rassasier, etc. Vous connaissez le texte, on ne va pas le relire entièrement, mais vous savez donc ce qui se passe. Ils meurent tous les deux et le pauvre Lazare est porté, nous est-il dit, dans le sein d'Abraham. Qu'est-ce que c'est que le sein d'Abraham? Bon, ça c'est une notion juive, n'est-ce pas, qui signifie être couché sur le sein de quelqu'un, c'est l'allusion à un banquet. Vous savez, les Romains avaient l'habitude aussi de manger couché. On avait des lits d'apparat, on était couché, et puis donc celui qui était directement à la droite donc du maître de maison, donc si vous voulez, si on était couché comme ça, en s'appuyant sur le bras gauche, on mangeait avec le bras droit, donc l'invité d'honneur était juste à côté. Et c'était la position, par exemple, qu'avait Jean dans le dernier repas, tel qu'il nous est rapporté dans les évangiles. Il était couché sur le sein de Jésus, c'est-à-dire qu'il était à la place d'honneur. Bon. Donc, être dans le sein d'Abraham, ça veut dire être à la place d'honneur. À la place d'honneur où? À un banquet. Un banquet qui est présidé par Abraham. Et ça, c'est dans, on trouve ça dans le Talmud, dans l'au-delà, les justes participent au banquet eschatologique qui est présidé par Abraham. Alors, cette expression, le sein d'Abraham, nous amène d'abord à nous interroger sur ce qu'était la vision juive de la mort, dans l'Ancien Testament, d'une part, et puis ensuite à l'époque du Nouveau Testament. Ce qui est remarquable, pour ce qui est de l'Ancien Testament, c'est qu'il y a une grande différence entre ce que l'Ancien Testament nous dit de la mort, ou de l'après-vie, ou l'après-mort, et puis ce que nous dit le Nouveau Testament. Alors que le Nouveau Testament, lui, s'arrête beaucoup sur cette question, l'Ancien Testament en parle très peu. Tellement peu, d'ailleurs, qu'à l'époque de Jésus, on le sait, était apparu, je ne dirais pas une secte, j'aime pas ce mot, surtout avec le sens qu'il a aujourd'hui, mais disons une école de pensée, disons plus exactement, au sein du judaïsme que évoque le Nouveau Testament, les Sadducéens, qui niaient toute forme de survie après la mort, donc la résurrection également. Pas seulement la résurrection, mais toute forme de survie après la mort. Une lecture superficielle de l'Ancien Testament pourrait effectivement nous laisser à penser que les choses sont ainsi, notamment lorsqu'on lit le livre de l'Ecclésiaste. Il n'y a ni pensée, ni souvenir dans le lieu du silence où tu vas, ni connaissance, ni rien. Donc inconscience. Bon. En fait, les choses sont plus complexes, comme l'avait fort bien vu d'ailleurs une autre école de pensée du judaïsme de l'époque de Jésus, les pharisiens, qui eux, au contraire, avaient une vision tout à fait différente de la chose. Il faut voir d'abord dans quel contexte est né l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, plutôt le peuple d'Israël, naît au moment de la sortie d'Égypte. Or, l'Égypte pharaonique était une civilisation qui tout entière était tournée vers la mort. Les demeures d'éternité, telles que les pyramides, par exemple, étaient infiniment plus luxueuses et plus importantes que les demeures des vivants. Et dès qu'un pharaon arrivait au pouvoir, la première chose, même s'il avait 18 ans, la première chose qu'il faisait, c'était de se faire construire son tombeau. Et pendant tout le reste de sa vie, on construisait son tombeau. Bon, on sait les rites de momification, qui manifestait évidemment une foi dans la survie. Ça veut dire que l'âme restait liée au corps aussi longtemps que le corps subsistait. Donc il fallait faire en sorte que le corps subsiste pour que l'âme puisse continuer à vivre également. Et les spéculations sur l'après-mort, Osiris, le dieu de la mort, le juge des enfers, la balance, on en parlait la dernière fois, qui pèse les âmes selon les mérites qui sont les leurs pendant leur vie, imagerie qui a subsisté jusqu'à nos jours, même dans la religion chrétienne, et qui n'est pas biblique, mais qui nous vient directement des Égyptiens. Bon. Ajoutons à cela tous les rites magiques qui faisaient qu'on pouvait communiquer avec les esprits des morts, la nécromancie, le spiritisme, très très développé en Égypte. Et la Bible, au moment où le peuple d'Israël sort d'Égypte, coupe avec ça. Le peuple d'Israël est intoxiqué, en quelque sorte, de cette vision de la mort, n'est-ce pas ? En quelque sorte, l'Égyptien vit pour la mort. C'est la caractéristique de la civilisation égyptienne. Or, dit la Bible, ça, c'est pas acceptable. Parce que Dieu, lui, n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Il est le Dieu de vie. La mort, c'est l'anti-Dieu, à la limite. Parce que Dieu est vie. Donc la mort, c'est son contraire. Et Dieu libère son peuple, non pas pour la mort, mais pour la vie. Et le peuple d'Israël est appelé à la vie. La Torah s'achève par l'apologue bien connu des deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Le chemin de la vie, si tu écoutes cette Torah qui est une Torah de vie, alors choisis la vie afin que tu vives. Le peuple d'Israël est exhorté à choisir la vie. Alors la vie, qu'est-ce que la vie ? Est-ce uniquement la vie terrestre ? L'Ancien Testament s'interdit de spéculer sur ce qu'il y a après la mort. Précisément pour tirer en quelque sorte le peuple juif de toute cette mythologie égyptienne dans laquelle il avait baigné et qu'il avait profondément marqué, puisque même Jacob avait été embaumé, Joseph lui-même avait été embaumé. Donc petit à petit, le peuple d'Israël avait adopté les vues qu'étaient celles des Égyptiens sur la mort. On en a aussi des traces dans ce sens que pendant toute la période biblique, les Israélites ont offert à leurs morts des offrandes. Dans tous les tombeaux israélites qu'on retrouve jusqu'à la destruction du temple, il y a des offrandes faites aux morts. Pourquoi ? Parce que justement, on reste quand même marqué par la civilisation égyptienne. Et la civilisation égyptienne, bien sûr, offrait des offrandes aux morts, ça c'est évident. Il n'y a qu'à voir, par exemple, les trésors qu'il y avait dans la chambre funéraire de Toutanakhamon. C'est le plus luxueux parce que c'était le seul des tombeaux qui n'avait pas été pillé. Mais c'était la même chose pour tous les pharaons. Bon. Alors, la Bible veut que le peuple d'Israël se dégage complètement de cette vision. Ne spécule pas sur ce qu'il y a après la mort. Le culte des morts, tout ce qui tourne autour du culte des morts, c'est une idolâtrie pour la Bible. Encore une fois, parce que Dieu est le Dieu des vivants, il n'est pas le Dieu des morts. Alors, est-ce à dire que la vie terrestre est la seule perspective de l'Ancien Testament ? Non, il y a plusieurs textes qui nous le montrent, des allusions plutôt que des doctrines formulées. Allusions, par exemple, lorsque Moïse déclare, après l'épisode du veau d'or, « Si tu ne veux pas pardonner à ce peuple, efface-moi, je te prie, du livre que tu as écrit. » Et là, nous trouvons la première allusion à ce que nous retrouverons dans l'Apocalypse, par exemple, le livre de vie. Dieu écrit un certain nombre de fidèles, de justes, pour la vie éternelle. Et de nombreux textes aussi, dans le livre des psaumes, le livre des proverbes, nous parlent de la même manière. Le livre des proverbes nous dira par exemple que la Torah est une Torah de vie. Elle est un arbre de vie. Celui qui la trouve, trouve la vie. Celui qui trouve la sagesse, trouve la vie, etc. Bon, manifestement, la vie dont il est question ici, puisqu'il est, il est fait allusion à l'arbre de l'Éden, c'est pas seulement la vie pour ce monde-ci. Ça va au-delà. Bon, psaume 15, cité par Pierre le jour de la Pentecôte, « Tu n'abandonneras pas mon âme dans le Sheol, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Bon. » Autre allusion, psaume d'Asaph, je n'ai plus le numéro en tête, bon, peu importe, Asaph dit, « Eh bien, tu me conduiras en quelque sorte tous les jours de ma vie, puis tu me recevras dans ta gloire. » Puis, après ma vie, donc tu me recevras dans ta gloire. Peut-on être dans la gloire sans être dans la vie? Ce n'est pas possible. Même l'Ecclésiaste, qu'on utilise souvent justement pour dire, voyez bien, l'Ancien Testament ne croit pas à la vie après la mort. L'Ecclésiaste va jusqu'à dire, Dieu recueille ce qui a fui. Si Dieu recueille ce qui a fui, c'est-à-dire l'histoire, pas seulement l'histoire générale, c'est mon histoire personnelle que Dieu recueille. Et si Dieu recueille mon histoire, eh bien c'est que, d'une certaine manière, il y a une survie. Bon. Et maintenant, quand nous regardons au travers de la Bible ce qu'avait été la foi populaire, parce que il y a évidemment l'enseignement officiel, puis à ce que les gens pensent. Par exemple, quand on voit, tout à l'heure j'étais avec mes deux oncles, là-bas vers Sainte-Anne et tout ça, et je leur disais bien sûr que Sainte-Anne était la grand-mère du Christ, comme chacun sait, et qu'elle était bretonne. Bon, c'est évident qu'il y a une différence entre ce qui est l'enseignement officiel de l'Église catholique, et puis finalement ce que les gens simples, les gens du peuple croient. Ça ne coïncide pas toujours tout à fait. N'est-ce pas ? C'est évident que si on parle à un prêtre ou à un évêque en disant « Mais quoi, la Sainte Anne était la grand-mère du Christ ?» Bon, ben, il sourira. Hein ? Mais certains, dans la région, y croient dur comme fer. Bon, on a la même chose dans la Bible. Puisque précisément la Bible ne nous parle pas de l'au-delà, eh bien, vous savez, on comble les vides. La nature a horreur du vide. Et très vite, les gens spéculent. Bon, j'ai parlé tout à l'heure des offrandes qu'on faisait aux morts. Ça, c'est très intéressant. Ça montre que déjà, on croyait que d'une certaine manière, le disparu continuait à vivre, puisque sinon, on n'aurait pas fait d'offrande. D'ailleurs, c'est une des marques de l'humanisation. On sait qu'on a affaire à un être humain en archéologie dès l'instant où il y a des offrandes, il y a des rites funéraires, très exactement. Et tous les rites funéraires manifestent une croyance, une foi dans une survie du mort. Ça, c'est le propre de l'être humain. N'est-ce pas ? Alors, évidemment, le comment de cette survie est... Ça, c'est autre chose. Et la Bible, l'Ancien Testament, nous parle d'un lieu où vont les morts. Ce lieu, elle l'appelle le bord, la fosse. Bon. La fosse, c'est évidemment la tombe, le trou dans lequel on met le mort. Descendre dans la fosse, ben, c'est être enterré. Une autre expression, être réuni à ses pères, parce que les sépultures étaient communes, alors on allait rejoindre ses ancêtres. Bien. Et puis, il y a un autre lieu, n'est-ce pas, qui est évoqué alors, plus général, le Sheol, qui sera traduit en grec par le Hadès et par la Vulgate, par le mot infernum, d'où le mot enfer en français. Le mot « enfer », si on le prend au sens que lui donne l'Ancien Testament, c'est-à-dire « Sheol », ne signifie pas du tout ce qu'il est devenu depuis, c'est-à-dire un lieu de tourment, mais le lieu où descendent tous les morts, qu'ils soient justes ou qu'ils soient injustes. L'Ecclésiaste nous dit cela. Tout va en un même lieu. Tous descendent au Sheol. Tous les morts descendent au Sheol. Sheol s'appelle aussi Douma. Le psaume 115, ce ne sont pas les morts qui louent l'Éternel, aucun de ceux qui descendent dans le Douma. On traduit le lieu du silence. Le Sheol est un lieu de silence. Et là, les morts deviennent ce que la Bible appelle des réphaïm, des ombres, des fantômes, si vous voulez. Et là, ils vivent une vie diminuée, une vie atrophiée. Elle continue à exister. Ça, c'est un petit peu la vision qu'a l'Ancien Testament. Bien. Maintenant, nous avons le prophète Ésaïe qui, au chapitre 28, si ma mémoire est bonne, annonce le triomphe ultime de Dieu dans les grandes visions eschatologiques qui sont les siennes. La vision eschatologique d'Ésaïe est très intéressante. Elle prévoit le châtiment d'Israël par l'exil, puis le retour de l'exil, la reconstruction de Jérusalem. Jérusalem qui deviendra la métropole de tous les peuples qui monteront à Jérusalem, qui connaîtront le Seigneur. Les idoles disparaîtront, la gloire de l'Éternel remplira la terre. Une terre transformée où le loup habitera avec l'agneau, etc. Et puis, le shalom, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Le shalom, c'est le salut, finalement. D'ailleurs, c'est la salutation, vous savez, en hébreu, shalom, comme on dit en français, salut. Salut, aujourd'hui, c'est devenu plus ou moins un mot familier. Hein. C'est presque impoli de dire à quelqu'un qu'on ne connaît pas intimement, salut. En fait, c'est quelque chose qui devrait être beaucoup plus profond encore que le bonjour. Le salut, c'est le shalom. Donc shalom, c'est le salut. Et le salut de Dieu, la paix de Dieu, la paix universelle entrevue par le prophète Ésaïe ne peut être complète aussi longtemps que la mort n'est pas vaincue. Ésaïe est celui qui, le premier, explicite ce qui est déjà sous-jacent dans l'Ancien Testament, dans la Torah, dans tout ça. Le Seigneur prépare pour tous les peuples sur une haute montagne un festin de mets succulents, un festin de viande rare. Et sur cette montagne, Dieu anéantit le voile qui enserre les peuples. Sur cette montagne, Dieu anéantit la mort pour toujours. Et on retrouve dans le 66e chapitre, le verset qui sera cité par Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, « Ô mort, où est ton aiguillon ? Ô mort, où est ta victoire ? Ô sépulcre, où est ta victoire ? Ô fosse, où est ta victoire ?» Et à la fin du chapitre 28, « Que mes morts revivent, que les ombres ressuscitent. » Bon. Et puis évidemment, on arrive à Daniel. Mais ça, c'est la fin de la période. Chapitre 12, dans ce temps-là, n'est-ce pas, quelques-uns de ceux, un grand nombre de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre éternel. Et là, donc, nous avons en germe les points qui affirment deux choses. Premièrement, que la destinée de l'homme ne s'arrête pas à sa mort physique. Et deuxièmement, qu'un jour, la mort même sera anéantie et qu'il y aura par conséquent résurrection. Si cela n'est pas, la gloire de Dieu ne peut pas être complète. Car ça voudrait dire que la mort est plus forte que la création de Dieu. Mais Dieu est vie. Et la vie doit avoir le dernier mot sur la mort. C'est tout. Quand on a fini l'Ancien Testament, on reste là. On reste sur sa fin. Alors, les sages juifs, selon le procédé du Midrash, vont creuser, c'est la signification du mot Midrash, ces quelques indices très discrets que l'Ancien Testament nous donne, premièrement de la survie dans l'au-delà, et deuxièmement, eh bien, de la résurrection des morts. Alors, le premier texte sur lequel on se focalise pour ce qui est de la survie, c'est justement le texte d'Ésaïe 28. Et puis, pour la résurrection, Ésaïe 28 et Daniel 12. Survie, on parle justement d'un festin. Dieu crée sur cette montagne un festin de mets succulents. Et là, il anéantit la mort pour toujours. Le festin dont il est question ici n'est pas un festin banal. C'est le festin des derniers jours. Et alors, on se dit à partir de ce texte, c'est donc s'il est question d'un festin que dans le Sheol, le sort de tous les hommes n'est pas unique, n'est pas identique. Et que s'il est vrai que les injustes, vraisemblablement, mènent une vie rabougrie, une vie au ralenti, il n'en va pas de même des justes. Et ce d'autant, et ça c'est un autre midrash très intéressant, que les hommes qui ont marché avec Dieu, notamment les pères, Abraham, Isaac et Jacob, Dieu se réfère constamment à eux. « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Dieu ne dit pas « J'étais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et alors là, s'il en est ainsi, c'est parce qu'il est encore aujourd'hui le Dieu d'Abraham. Donc Abraham aujourd'hui est Isaac et Jacob est dans une autre réalité, dans une autre dimension, dans une autre forme d'être, mais ils sont. Et parce qu'ils sont, justement, en quelque sorte, ceux auxquels Dieu se réfère toujours, mais c'est eux qui président ce banquet sur une haute montagne. Et là, on n'est plus dans le Sheol, on est dans une haute montagne. Et sur cette haute montagne, Dieu, pour tous les peuples, pour tous les justes des nations, Dieu dresse un festin présidé par Abraham, Isaac et Jacob. Alors ensuite, bien sûr, il y a des spéculations plus discutables sur ce festin. Alors les rabbins discutent, mais qu'est-ce qu'on va manger à ce festin eschatologique ? Alors, on a trouvé ce qu'on allait manger. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il est question de monstres, notamment d'un monstre qui s'appelle, deux monstres, un qui s'appelle Léviathan et un qui s'appelle Béhémoth. Vous les trouvez dans la fin du livre de Job. Alors, on traduit généralement par le crocodile ou l'hippopotame. Bon, c'est pas du tout ça, c'est faux. Ce sont des personnifications de Satan, du diable. N'est-ce pas ? Faut-il y voir d'ailleurs aussi le prototype des bêtes de l'Apocalypse. Léviathan, la bête qui monte de la mer. Béhémoth, la bête qui monte de la terre. C'est possible. Bien. Alors, Dieu tuera à la fin Léviathan. Là aussi, on trouve ça dans le livre du prophète Ésaïe, dans son Apocalypse, à partir du chapitre 24. Eh bien voilà, on va manger la chair du Béhémoth et du Léviathan. C'est ça qui sera servi au banquet eschatologique. Bon, là, on peut penser que ça va un peu loin. On va penser que ça va un peu loin. Mais enfin, l'idée du banquet eschatologique est là. Or, ce qui est très intéressant, c'est que Jésus le reprend à son compte. Ici, le pauvre est conduit par les anges dans le sein d'Abraham à ce banquet. À la place d'honneur, qui plus est, dans le sein d'Abraham. Pourquoi Abraham ? Eh bien, parce que, justement, Jésus le dira plus tard. quand il discute avec les Sadducéens, justement. Vous savez l'histoire loufoque que les Sadducéens lui proposent, un homme, une femme qui a épousé 7 frères, parce que, bon, il y a eu le Lévira qui a joué pour les 7 frères. Bon, alors finalement, la résurrection, de qui elle sera la femme? Bon, ben, Jésus n'a aucun mal à démonter un aussi piètre piège. Franchement, ce n'était pas surmené pour avoir trouvé quelque chose de pareil. Hein. Mais Jésus va plus loin et dit, mais que Dieu soit celui qui ressuscite les morts, c'est ce que la Torah dit. Et il cite justement ce verset, car Dieu se révèle en disant, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, car pour lui, tous sont vivants. En cela, vous êtes grandement dans l'erreur, dit Jésus. Donc ici, confirmation de Jésus, non pas tant sur la résurrection, qui était l'objet du débat d'ailleurs avec l'histoire de la femme et des 7 frères, mais de la survie, que les Sadducéens niaient aussi. Puis enfin, dernier point, Jésus aussi reprend cette vision du banquet eschatologique en disant, vous savez, lorsque le centenier, le serviteur du centenier a été guéri, que le centenier dit « Ne te dérange pas, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi, dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Et Jésus dit, je vous dis, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Et il ajoute « Il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table avec Abraham et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, mais les fils du royaume seront jetés dehors. » Là, Jésus évoque aussi ce festin eschatologique. Alors, évidemment, la différence n'est pas toujours très facile à faire. Entre est-ce que c'est un banquet qui aura lieu uniquement au dernier jour, ce que laisse supposer d'ailleurs le texte d'Ésaïe 28, ou bien est-ce que déjà, il y a, pour celui qui meurt, déjà. Bon, je crois qu'il faut répondre, c'est les deux. Et dès la mort, quelque chose se passe. Et là, justement, nous revenons à notre parabole, après avoir fait ce détour par l'Ancien Testament, et puis par les conceptions de la mort à l'époque de Jésus, dans le judaïsme. Dans le judaïsme, d'ailleurs, où on a une vision aussi du salut par les œuvres, ça c'est assez différent, mais ça je laisse de côté. Et là, donc, nous avons une parabole. Alors, évidemment, tous les bons exégètes vous diront, il ne faut jamais construire une doctrine sur une parabole. Ça, c'est l'erreur fondamentale. Mauvaise exégèse, construire une doctrine à partir d'une parabole. Ok, d'accord. Mais manifestement ici, Jésus, au travers de cette parabole, veut nous donner un enseignement sur l'après-mort. C'est tout le but de la parabole. Et nous pouvons dire que là, avec cette parabole, nous avons une exception. C'est l'exception unique dans toute la Bible, où précisément, cette parabole nous est donnée pour construire, sinon une doctrine, du moins nous donner un aperçu sur ce qu'il y a après la mort. Et là, ce texte est le plus clair dans ce domaine. Nous n'en avons aucun autre dans la Bible qui va aussi loin. Car encore une fois, la Bible nous interdit, en tant que vivants, de chercher à percer ce qu'il y a en quelque sorte de l'autre côté. La Bible nous dit qu'il y a des choses qui ne sont pas permises à un homme de recevoir, de voir ou d'entendre. Paul a eu le privilège exceptionnel d'être enlevé précisément dans ces régions où l'homme ne peut pas aller. Et il a entendu des choses qu'il ne lui est pas permis de répéter. C'est pourquoi. Lorsque vous avez affaire à des témoignages, comme on en entend de temps en temps, vous avez des gens qui sont allés dans l'au-delà et qui vous racontent par le menu ce qu'ils y ont vu. Eh bien, soyez extrêmement prudents. Extrêmement prudents sur ces témoignages. Ce qui ne veut pas dire que moi j'ai moi-même ma propre arrière-grand-mère qui a fait une expérience de vie après la vie. Mais elle n'a pas décrit avec des détails. Elle a dit simplement ceci, c'est beau. Et on est beaucoup mieux qu'ici. C'est tout. Elle ne pouvait pas décrire ce qu'elle avait vu. Elle ne pouvait pas. N'est-ce pas ? Bon, ça suffit. Et c'est toujours ce que la Bible fait. Et là, c'est la même chose. Le Seigneur nous donne quelques aperçus, mais le minimum. Et nous n'avons pas le droit d'aller au-delà. Qu'est-ce que cette parabole veut nous enseigner ? Tout d'abord, reprendre ce que dit l'Ecclésiaste. Tout va en un même lieu, le pauvre comme le riche. Il meurt le même jour, et puis voilà. Alors il y a une chose très intéressante qui nous est dite. Lazare fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Donc ici, quand nous aurons l'occasion de reparler des anges, dans ce cours d'eschatologie, nous en parlerons. Nous voyons que les anges ont un rôle à jouer justement dans, quelque sorte, la mort du juste. À la mort du juste, son âme est portée par les anges. Et il est porté dans le sein d'Abraham. Donc, dans ce banquet eschatologique, ça veut dire dans un endroit de paix, dans un endroit où il se réjouit et où, nous dira plus tard Abraham, il est consolé. Bon, chose intéressante, Abraham ici apparaît comme un personnage qui effectivement a toute sa personnalité, toute sa lucidité, il parle, etc. Et puis Lazare aussi finalement. Il se souvient des mots qu'il a eus pendant sa vie. Et là, il constate qu'il est dans la paix, qu'il est consolé. Il ne nous est rien dit du méchant, du mauvais riche. Sinon ceci. Dans le Sheol, il ouvrit les yeux. Il ne nous est pas dit qu'il a été transporté par des anges ou par des démons, par que ce soit. Il se retrouve dans le Sheol. Il ouvre les yeux. Et se découvre dans un lieu terrible. Dans lequel il souffre, dit-il, terriblement dans cette flamme. Il prend conscience, soudain, qu'il souffre. Alors, il lève les yeux et il voit Lazare et Abraham, Abraham et Lazare dans son sein. Il reconnaît tout de suite Abraham, qu'il n'a jamais vu, bien sûr, mais il le reconnaît. Quant à Lazare, il le reconnaît aussi. Ça veut dire qu'il a toute sa personnalité. Et si nous sommes aux antipodes, justement, des adventistes dont nous parlons la dernière fois, pour lesquels la mort est un sommeil, une perte de conscience, on voit que c'est tous les protagonistes de cette histoire qui sont dans l'au-delà ont bel et bien leur conscience. Ils ont tellement leur conscience que Lazare dit au mauvais riche, « Mon enfant, souviens-toi que tu as eu tes maux pendant ta vie. » Donc, il est capable de se souvenir. Il a toute sa personnalité. Il se souvient même qu'il a des frères, etc. Donc, nous voyons ici que les morts, et c'est ce que la Bible veut nous enseigner, c'est ce que Jésus veut nous enseigner, ont, dans l'au-delà, toute leur lucidité, qu'ils soient d'un bord ou d'un autre, qu'ils soient dans le lieu de tourment ou qu'ils soient au contraire dans le sein d'Abraham. Retrouvons ça dans l'Apocalypse, où les âmes de ceux qui ont été décapités pour le nom de Jésus sont sous l'autel, et ils crient « Jusque à quand, maître juste, tarderas-tu à tirer vengeance de notre sang qui a été répandu ?» Et on leur dit de se tenir tranquille encore pendant un petit temps, et une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Donc c'est pareil, ils ont leur conscience. C'est clair. Et le mauvais riche aussi, il a toute sa conscience. Ce qui diffère, c'est que comme le dit notre parabole, il y a un grand abîme infranchissable entre les deux parties du Sheol. Et là, Jésus nous donne justement une indication nouvelle, enfin nouvelle qui était déjà classique dans le judaïsme de son temps, mais qui est nouvelle par rapport au seul enseignement de l'Ancien Testament, si j'ose dire, c'est que le Sheol est divisé en deux parties. Il y a une partie pour les morts justes, là où ils sont donc dans le Saint Abraham, finalement ce qui est une autre manière de dire dans la présence de Dieu. dans un lieu où ils sont consolés, dans un lieu où ils sont bénis. Et puis il y a l'autre, où il y a un lieu de souffrance et de tourment. Jésus met en garde à plusieurs reprises aussi ses auditeurs. On appelait ça dans le judaïsme de cette période-là le Gan Eden, le jardin d'Éden, avec l'idée que le jardin d'Éden justement avait été transféré de la terre dans un lieu céleste, une haute montagne si vous voulez. Et puis on appelait Géhinnom, ce qui nous donne Géhenne dans le Nouveau Testament. C'est un mot qui est formé de deux mots hébraïques, Gé, la vallée, Hinnom, de Hinnom. Il y en est question dans le livre des Rois, le livre des Chroniques. La vallée de Hinnom, c'est la vallée qui est située depuis, pour ceux qui connaissent, le pied, si vous voulez, de la depuis Mamila, quoi, depuis la tour de David, hein, et qui passe au pied de l'église écossaise, là-bas, la piscine du sultan, l'église écossaise, et qui rejoint la vallée du Cédron au sud de Jérusalem, au sud de Jérusalem actuelle, quoi. Bon, c'était, on appelait la vallée des fils de Hinnom, qui était cet Hinnom-là, un illustre inconnu, mais certainement propriétaire des lieux. Et à l'époque du roi Ménaché, de l'apostasie, le roi Ménaché avait fait brûler son fils en l'honneur du Moloch dans la vallée des fils de Hinnom, nous est-il dit. Et de cette manière, n'est-ce pas, une malédiction avait été prononcée sur cette vallée de Hinnom. Elle était devenue un cimetière ensuite. Jérémie prophétise en disant que après la ruine de Jérusalem par les Babyloniens, le nombre des morts sera tellement considérable que la vallée du Hinnom, qui est le cimetière, ne sera plus suffisante pour enterrer tous les morts. On sera obligé de les enterrer sur les pentes des collines qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire là où est l'église de Saint-André actuellement, l'église écossaise, Mishkenot, Shananim, toutes cette région-là, si ceux qui connaissent. Et donc, si vous voulez, ça devient l'image de la mort, parce que c'était un cimetière, et l'image de la partie du Sheol qui est réservée aux morts injustes, où brûle un feu qui ne s'éteint pas, et on trouve ça dans Ésaïe déjà, n'est-ce pas, au temps de la fin, on verra, chapitre 66, on va relire le texte. Voilà. Les cieux nouveaux et la terre nouvelle que je fais subsisteront devant moi, ainsi subsisteront votre descendance et votre nom, donc la vie éternelle. De nouvelle lune en nouvelle lune, de Shabbat en Shabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi des armées. Et quand on sortira, on verra le cadavre des hommes criminels à mon égard. Car leur ver ne mourra pas et leur feu ne s'éteindra pas, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Et là, il y a l'idée donc d'un châtiment éternel pour les impies. Leur ver, pourquoi ? Tola'a en hébreu, leur ver ne meurt pas. Et ça c'est très intéressant. Le ver dans le Tola'a en hébreu, c'est l'image, si vous voulez, d'une vie, comme on disait tout à l'heure, d'une vie rabougrie. Le ver, il a une vie presque végétative, quoi. C'est le dernier de tous les êtres. Finalement, les pêcheurs, dans l'au-delà, sont réduits à avoir l'existence d'un ver. C'est ça que ça veut dire. Mais ce ver ne mourra pas. Et un feu les consumera constamment. Jésus cite cette parole dans le Sermon sur la montagne, vous connaissez, quand il parle justement de Géhinnom, la Géhenne. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Si ton bras, ta main est une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie aveugle ou manchot, plutôt que tout ton corps n'aille périr dans le feu de la Géhenne. Alors périr, ah vous voyez, c'est la destruction, mais non. Être réduit à l'état d'un ver, c'est ça périr en hébreu. Périr, c'est pas cesser d'exister. Être ruiné, c'est ça, c'est aussi l'idée d'être ruiné, réduit à l'état d'un ver, dépouillé, comme on dit d'ailleurs presque dans notre français, être nu comme un ver, ça veut dire réduit à sa plus simple expression. Et là, bien ma foi, il y a un châtiment éternel. Ils subiront le feu d'un châtiment éternel. Alors, il y a de très nombreux textes dans le Nouveau Testament, hein, dans les épîtres, Pierre, n'est-ce pas, les anges qui ont péché, les gens de Sodome, les gens du déluge, ils subiront le feu d'un châtiment éternel, comme les impies à venir, vous trouvez ça chez Judas aussi, etc. Donc ici, on retrouve cette pensée chez Jésus, bien sûr, qui le reprend de là. Jésus n'innove pas. Jésus reprend et amplifie ce qui avait déjà été annoncé dans l'Ancien Testament. Alors quand Jésus nous parle de la géhenne, il reprend tout simplement cette idée. Et le mot vériche dont il est question ici souffre le feu de la géhenne. Il souffre la géhenne pleinement conscient. Et bien que ce ne soit pas dit dans notre parabole, mais c'est ici dans notre texte d'Ésaïe et dans d'autres textes de l'Apocalypse, et Jésus le cite encore une fois dans le Sermon sur la montagne, « Le ver ne meurt pas et le feu ne s'éteint pas. » Matthieu 25, « Allez loin de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été réservé pour le diable et pour ses anges. » Châtiment éternel. Et là, les textes tant de l'Ancien que du Nouveau Testament sont absolument clairs à ce sujet. Une souffrance éternelle. Faut-il y voir un feu au sens matériel du terme ? Bon, certains évangéliques étaient prêts à se faire couper en morceaux pour défendre l'idée d'un feu au sens propre du terme. Bon, personnellement, je serais peut-être moins affirmatif. Je crois que ce que la Bible, Ancien et Nouveau Testament, veut nous dire, c'est que la souffrance qui sera celle des damnés sera la souffrance comme celle qui est la pire souffrance qu'un homme un être humain puisse subir, la souffrance de la brûlure. N'est-ce pas ? C'est que les grands brûlés souffrent, c'est ceux qui souffrent le plus pratiquement, hein, Olivier. Hein ? Bon, bah, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Hein ? Une terrible souffrance. Et c'est pourquoi la Bible nous met en garde justement contre la mort éternelle. Et ici, notre mauvais riche, il subit la mort éternelle. Et la souffrance est telle chez lui qu'il dit « Père Abraham, envoie Lazare pour qu'il trempe son doigt dans l'eau et qu'il vienne au moins passer sa main entre mes lèvres, n'est-ce pas, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Et Abraham répond d'ailleurs avec amour, c'est ça qui est intéressant de voir. Il dit « Mon enfant, il le considère comme son enfant, c'est un fils d'Israël. » Mon enfant, souviens-toi que tu as eu tes biens pendant ta vie, tu ne t'es pas soucié de Dieu. Et bien maintenant, tu souffres. Et lui qui a souffert pendant sa vie, et bien maintenant il est consolé. D'ailleurs, il y a entre toi et moi et nous un grand abîme, infranchissable. Et ça c'est très intéressant parce que ça nous montre aussi que là, il n'y a pas, c'est irrémédiable. Et l'Épître aux Hébreux nous le dit aussi. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Un jugement irréversible. D'où justement l'inutilité, et même, je dirais, le blasphème que consiste à prier pour les morts. Car on ne peut plus rien changer au sort des morts. C'est la vie qui détermine l'endroit où l'on va passer justement l'éternité. L'inutilité aussi du purgatoire, ça on aura l'occasion d'y revenir. Il n'est pas question de purgatoire. Encore une fois, si notre homme c'était un fils d'Abraham, donc selon la théologie catholique, il aurait dû avoir une nouvelle chance. Et Abraham aurait dû lui dire, écoute, prends patience, d'ici 350 millions d'années, tu te sortiras de là. Non, non, un abîme infranchissable. Infranchissable. Quand bien même on le voudrait, c'est pas possible. Alors, Père Abraham, j'ai des frères. Au moins, on voit Lazare pour les avertir. Non, c'est pas la peine. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Tiens, c'est intéressant, ça veut dire Moïse et les prophètes témoignent de ces choses-là. Ben oui. Justement, si on lit la Bible correctement, on voit que c'est déjà annoncé dans l'Ancien Testament. Et s'ils ne croient pas Moïse et les prophètes, ils ne croiront pas, même si quelqu'un des morts est ressuscité. Ce qui est typique de notre temps, d'ailleurs. où il y a tant et tant de témoignages maintenant de la vie après la vie. Et malgré tout, on continue, pour beaucoup de gens, après la mort, c'est fichu. Il n'y a plus rien, n'est-ce pas ? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Bon, donc c'est exactement ce que... Alors donc, résumons-nous. Les morts sont pleinement conscients. Ils ont toute leur mémoire. Les morts impies souffrent et ils ne peuvent être soulagés par personne. Ils ne peuvent quitter ce lieu de tourment. Et ils sont responsables du sort qui est le leur. Quelle différence entre ce que nous avons là et ce que nous trouvons, par exemple, dans Philippiens 1, versets 19 et 21, où Paul s'écrit « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Et dans ce même texte, il dit « Je ne sais pas ce que je dois désirer. Si je dois rester ici ou bien si je dois aller avec le Seigneur. Si j'écoutais mon sentiment, je préférais d'aller avec le Seigneur parce que c'est de loin le meilleur. Mais à cause de vous et pour l'œuvre de Dieu, eh bien, je prie Dieu de me laisser encore un petit peu de temps ici, au milieu de vous. » Alors, voyez-vous, c'est ce qui nous est dit dans un autre texte. Jésus a détruit la mort et mis en évidence l'immortalité. On trouve ça déjà dans l'Ancien Testament, Proverbe 14, verset 32. « Le juste trouve un refuge même dans la mort. » C'est de pareils textes relativisent considérablement la mort, qui pour l'être humain est la catastrophe la pire, quoi. Et alors, parfois, le scandale de certaines morts, mort de certains missionnaires tués pour l'œuvre de Dieu, de martyrs, etc., ou même d'enfants qui meurent avant un moment où, au contraire, ils devraient vivre. Mais il y a des choses qui nous échappent. Il y a des choses qui nous échappent. Il y a tout un domaine ici. Dieu ne voit pas du tout la mort comme nous. Dieu ne voit pas la mort comme cette catastrophe terrible que nous envisageons. N'est-ce pas ? Et la Bible, justement, ne veut pas que nous sachions plus. Parce qu'autrement, les jeux seraient pipés. Mais nous en dit assez, simplement. On dit, ben voilà, c'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est le meilleur à condition, évidemment, qu'on ait fait la paix avec Dieu. Car finalement, c'est le seul moyen d'échapper à la mort. Il faudrait peut-être aussi reprendre un autre texte. Oui, où les questions, c'est le texte bien connu. « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Et c'est la raison pour laquelle, ici, on ne peut pas admettre le suicide ou l'euthanasie. Car finalement, si on abrège la vie d'un homme, on l'empêche peut-être de se tourner vers Dieu dans ses derniers moments. Qui nous dit que cet homme n'aurait pas été sauvé si on ne lui avait pas donné toute sa vie encore, à vivre toute sa vie, hein ? Bon, même chose pour le suicide. Le suicide est un acte de désespoir où, par conséquent, bien, logiquement, c'est la mort éternelle. La Bible ne peut pas admettre une chose semblable. Et c'est-à-dire, on met la peine de mort. La peine de mort, c'est différent. La peine de mort, c'est le châtiment d'un coupable dans le but de, si vous voulez, de mettre hors d'état de nuire, eh bien, la Bible reconnaît encore une fois la peine de mort, même si, encore une fois, si on peut faire autrement, c'est mieux, c'est évident. Hein. Et bien que je sois chrétien, je ne suis pas pour la peine de mort, même si je reconnais que si on met quelqu'un à mort, un criminel à mort, on n'a rien fait de mal, on a fait ce qui est juste, ce qui est légitime, hein, ce que Dieu a permis à l'homme de faire. Maintenant, un homme peut aussi hâter sa propre mort par une vie déréglée. Les hommes de fraude, dit le psaume 55, verset 24, n'atteindront pas la moitié de leur jour. Et vous savez, il y a même une expression en français, « creuser sa tombe avec ses dents », parlant de gens qui mangent n'importe quoi, n'importe comment. Paul nous dit aussi que certains abrègent leur jour en prenant la Sainte Cène injustement. C'est à cause de ça que beaucoup d'entre vous sont morts, et que même certains sont morts avant leur temps, sont malades, et que certains sont morts avant leur temps. À l'inverse, on peut aussi prolonger la durée de sa vie. Et le commandement du Décalogue, honore ton père et ta mère pour que tu sois heureux et que tu prolonges tes jours sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. Comme disait un pasteur, la mort peut attendre. Maintenant, attention, ceci étant dit, voyez-vous, ce qui est extraordinaire dans le christianisme, c'est que le christianisme, justement, a transfiguré la mort. Et la mort a été donc vaincue par Jésus-Christ. Et là, comme toujours, on tombe dans un autre extrême. Non seulement la mort est dédramatisée dans le christianisme, mais je dirais, à la limite, elle est même glorifiée. Et c'est là que ça a plu. Il suffit de prendre, par exemple, même beaucoup de nos cantiques. Je ne sais pas, qui disent, en quelque sorte, une aspiration à la mort, quoi. Hein. Certains cantiques sont une aspiration à la mort. Par exemple, je pense à un cantique qu'on ne chante jamais pour cause, parce que je le trouve abominable à ce niveau-là, n'est-ce pas ? Un jour, comme un fil qui se brise, mon âme au ciel s'envolera. Au lieu d'une prison d'argile, Dieu m'offre un palais radieux. Bon, ben là, d'abord, c'est une faute théologique majeure. On est dans le dualisme platonicien dont nous parlons la dernière fois. Le corps est la prison d'argile, dont l'âme est prisonnière, et quand le Seigneur coupe le fil de notre vie, mon âme se dégage de cette prison d'argile pour rejoindre les purs esprits. C'est exactement ce qu'aurait dit Platon. Mais certainement pas ce qu'aurait dit Paul. N'est-ce pas ? Ni Esaïe. Bon. Alors, je verrai face à face celui qui m'a sauvé par grâce. Bon, très bien, d'accord. Ça. Mais il y a, dans certains cantiques, vous n'aurez qu'à faire attention quand on les chante parfois, n'est-ce pas, quelque chose qui est une véritable aspiration à la mort. Je pense à un cantique anglais, qui n'existe pas en français, heureusement, qui dit à peu près ceci. Un jour, sommes gladés, un jour de joie, je m'en irai au ciel, comme on part pour un pique-nique, n'est-ce pas, joyeusement, n'est-ce pas. Écoutez, n'exagérons rien. La mort est vaincue, mais elle reste une ennemie. Une ennemie vaincue, mais une ennemie. Et, voyez-vous, les crucifix aux faces grimaçantes qu'on voit dans les églises catholiques, qui souvent ressemblent à des tombeaux, relève de cette espèce d'inversion des valeurs. Une vision un peu, si vous voulez, quelque chose de morbide, j'hésite pas à le dire. La glorification de la mort, donc la glorification de la souffrance rédemptrice, la mort rédemptrice. Bon, la mort du Christ est rédemptrice, mais c'est la seule. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous voyons Jésus devant le tombeau de Lazare pleurer. Pourtant, il va le ressusciter dans quelques instants. Il sait qu'il va le ressusciter. Il pleure. Et quand il est devant le tombeau de Lazare, il frémit dans son esprit. C'est pas. Il sait qu'il va vaincre la mort, mais il y a quelque chose qui se passe. Et là, il y a justement cet équilibre à garder constamment. La mort est vaincue. Mais elle est une ennemie. Vaincue, certes, mais ennemie quand même. Et la Bible nous dit, elle est vaincue, bien sûr, parce que Christ a vaincu la mort et mis en évidence l'immortalité. Et comme je disais tout à l'heure, il y a une relativisation extraordinaire. Mais c'est le dernier ennemi. Le dernier ennemi qui sera vaincu. Et en attendant, elle reste ennemie. Et en attendant, elle doit être combattue. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à tous... Il n'y a qu'à tous se passer au fil de l'épée, et puis on est dans le royaume de Dieu. On voit bien que ça ne tient pas. Et ça, vous ne verrez jamais ça dans le judaïsme. Le judaïsme n'attend absolument pas le moment extraordinaire où, après la mort, il sera, même si on croit au Gan Eden, comme je disais tout à l'heure. D'ailleurs, on trouve ça dans l'Évangile de Luc. Jésus qui dit cela aux brigands sur la croix. « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, » dit le brigand, et Jésus lui répond, « Je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le Pardès. Pardès, le jardin, le Gan Eden. C'est-à-dire, c'est une autre manière de parler du sein d'Abraham. C'est une autre manière de parler de l'endroit où sont les justes. Bon. Donc c'est vrai, c'est une ennemie qui est déjà vaincue. Mais quand même, Paul dit, ce corps, cette tente se détruit, bien sûr. Et tant qu'à faire, on préférerait paraître devant le Seigneur nu, non, vêtu et non pas nu. Ça veut dire quoi? Il dit ça en deuxième aux Corinthiens. Ça veut dire quoi, nu? Ben, dépouillé de notre corps. Paraître devant Dieu, dépouillé de son corps. C'est pas quand même une situation normale, quoi. Hein. Et c'est pour ça, justement, qu'il faut la résurrection. Parce que la victoire sur la mort n'est pas complète sans la résurrection. Certes, dans le sein d'Abraham, Lazare est consolé. Mais il est nu. Il y a quelque chose qui lui manque, et une dimension qui lui manque. Une dimension de vie qui lui manque quand même. Et c'est pourquoi les martyrs qui sont sous le trône, sous l'autel, dans l'Apocalypse aussi, crient « Seigneur, jusqu'à quand ?» Ils attendent quelque chose d'autre. Et en attendant, on leur met revu une robe blanche. Ça veut dire « ça tient lieu !» En attendant que vous ayez retrouvé votre corps, ben, vous avez une robe blanche. Et la pleine victoire sur la mort, le dernier ennemi ne sera vaincu qu'au moment de la résurrection. Car, et finalement c'était le dilemme des Corinthiens, si tel est le sort des morts, si déjà nous sommes dans le Pardès, si déjà nous sommes dans le Gan Eden, si déjà nous sommes dans le sein d'Abraham à la mort, quel besoin avons-nous d'une résurrection du corps? Ben oui, dit Paul, c'est déjà, et c'est pourtant pas encore. Et c'est toujours la tension. Hein. Nous avons déjà la gloire céleste. La couronne de gloire m'est réservée, dit Paul, quand il parle de sa mort. Hein. Et pourtant, il manque quelque chose. Et là, même pour les morts bienheureux, il y a une tension. Tension vers autre chose. Jusqu'à quand, Seigneur, tarderas-tu? Hein. Et ce n'est qu'au dernier jour, lorsque justement retentit le chauffard, le dernier chauffard, et que les morts ressuscitent, eh bien que la paix parfaite, le shalom parfait, le salut parfait est manifesté. Voyez-vous ? Alors ça, on aura l'occasion de reparler justement de la résurrection, et de voir l'importance de la résurrection. Mais ce qui est important ici, c'est de noter que là, pour l'heure, et ça on verra ça la prochaine fois, l'état actuel des morts est finalement un état intermédiaire. Une attente vers autre chose. Mais une attente, si j'ose dire, par rapport à laquelle il y a déjà eu une présélection. Et les morts bienheureux sont heureux dans l'attente de la félicité ultime, qui n'est pas encore manifesté. Et les morts impies sont déjà malheureux, mais dans l'attente de quelque chose de pire, si j'ose dire. Ce qui d'ailleurs n'est certainement pas sans leur causer des angoisses. Alors voilà, si vous voulez, en gros, ce que nous enseigne cette parabole essentielle qu'est la parabole de Luc XVI. On en s'arrêtera là pour ce soir. Juste un petit... Alors, est-ce que vous avez des questions à poser?
Qu'est-ce qu'on peut penser de... On a souvent cette... Je sais pas le texte précis, mais dans certains textes, laisse comprendre que c'est lié géographiquement, ça se situe
sous la terre, oui.
Qu'est-ce qu'on peut penser par rapport même à ce qui a été découvert en Russie, voilà.
C'est possible. C'est vrai qu'il y a de nombreux textes qui laissent entendre ça. Alors, le problème est de savoir, par rapport à ces textes, est-ce qu'il faut les prendre à la lettre, ou est-ce que c'est une manière imagée et poétique, descendre dans la fosse, descendre dans les lieux du silence, descendre sous la terre, bon, ben, quelqu'un qui est enterré sous la terre, c'est évident. Ouais. Faut-il le prendre à la lettre ou pas? c'est très difficile de trancher. C'est très difficile de trancher. Parce que là, dans toutes ces choses où on touche justement à l'au-delà, et dans toute l'eschatologie, ça c'est une règle très forte, et là, tu fais bien de poser cette question, parce que ça nous permet de faire cette mise au point, nous ne pouvons pas être dogmatiques. Encore une fois, la Bible ici ne nous dit que des toutes petites choses, des bribes, juste ce que nous avons besoin de savoir. Parce que toutes ces choses qui touchent à l'eschatologie, c'est-à-dire aussi bien à l'au-delà, la mort, etc., l'état des morts et toutes ces choses-là, ça éveille une curiosité morbide, malsaine, pas morbide obligatoirement, mais malsaine. Même chose pour ce qui est du retour du Seigneur. Le comment, le quand, comme les disciples demandaient à Jésus, est-ce à ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? C'est pas à vous qu'il a été donné de connaître les temps et les moments. Ça, c'est pas votre problème. Vous n'avez pas à chercher à soulever le voile. Mais, de fait, ça peut être. Alors, je dirais ni ça, ni ça. Peut-être. Peut-être pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, l'idée de quelque chose, d'une descente, hein, il est descendu dans les régions inférieures de la terre, il nous est dit aussi de Jésus, hein. Paul nous dit ça dans le Philippiens 2, il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Ça, c'est dans le judaïsme jusqu'à aujourd'hui, il y a cette foi en tout cas, que le Sheol est situé effectivement sous la terre, quoi. Alors là, justement, il y a tout le problème, ça on en parlera la prochaine fois, toujours dans cette vision de l'état intermédiaire. Des gens comme des théologiens évangéliques, comme Pache en particulier, pensent que la mort de Jésus a entraîné un changement d'état et que déjà... on en parlera la prochaine fois, si vous voulez. Bon, c'est pareil, là, c'est difficile d'un dogmatisme complet, parce qu'encore une fois, même... Jésus n'est pas très clair dans ce qu'il nous dit, même dans la parabole ici. Par exemple, le sein d'Abraham, bon, c'est déjà présent, et en même temps c'est à venir. Il en viendra de l'Orient, de l'Occident, ils se mettront à table avec Abraham et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, donc c'est à venir. Dans Luc 16, c'est déjà présent, dans l'histoire du centurion de Capernaum, c'est à venir. Le banquet eschatologique. Bon, vraisemblablement c'est les deux, c'est-à-dire que il y a déjà quelque chose, il y a l'avant-goût des félicités éternelles pour les justes dès à présent, et en même temps il y a quelque chose qui viendra, qui sera plus grand encore, qui viendra au moment de la résurrection finale, quoi, hein. Bon, alors, là aussi, n'est-ce pas, avant la mort de Jésus, quelle était la situation des morts justes? Bon, Pache et autres pensent pouvoir préciser. Personnellement, je suis un peu prudent pour m'aventurer dans des affirmations tranchées par rapport à ça, parce que finalement, nous ne savons pas. Ce qui est clair, encore une fois, c'est qu'il y a déjà un état intermédiaire pour, à la fois avec cette présélection dont je parlais tout à l'heure, les morts justes connaissent un avant-goût des félicités qui viendront à la fin, et les morts impies connaissent un avant-goût des souffrances qui leur seront réservées plus tard, aussi au jugement final, quoi. Je crois que c'est tout ce qu'on peut dire, quoi, pour l'heure. C'est tout ce qu'on peut dire. Oui, paradis, le pardès. Oui, tu seras dans le pardès. Le Gan Eden, quoi. C'est exact. Il reprend la notion juive du Gan Eden. Oui. C'est pour ça que je dis que c'est pas clair. L'enseignement de la Bible n'est pas très clair. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. C'est-à-dire que les deux réalités, la réalité présente et la réalité à venir, se télescopent parfois. Hein? Ah, encore une fois, je crois que c'est une gradation. C'est pourquoi, à mon avis, il y a une gradation. Hein? Il y a déjà quelque chose maintenant, de fort, de grand, de glorieux, mais le plus glorieux est encore à venir, quoi. Je crois que c'est ça que ça veut dire. Par rapport, si tu veux, à la situation présente, c'est déjà quelque chose d'infiniment glorieux. Mais par rapport à ce qui est à venir, c'est encore plus glorieux, quoi. À mon avis, je crois que c'est comme ça. C'est comme ça qu'on peut dire. Je me souviens, est-ce que c'est le docteur Planté qui disait qu'il a eu affaire à notamment des drogués avec des gens qui prenaient du LSD. C'était le fameux Timothy... Comment s'appelait là? Oui, qui donc, avec certaines drogues, essayait d'atteindre justement ces états à la fois. Et le docteur Planté me disait qu'il avait soigné des gens comme ça. Il me disait, bon, ces gens-là ont vu des choses et entendu des choses, comme dit Paul, qu'il n'est pas permis à un homme de voir et d'entendre. C'est en cela que, là, avoir recours à des drogues pour arriver à des états comme ça, c'est un grave péché contre Dieu. Grave péché. Et avec tous les risques de perturbations psychiques que ça peut, pour des gens qui reviennent après de trucs comme ça, quoi.
Mais justement, ceux qui font des expériences comme ça, parce qu'il y en a qui sont restés longtemps, je veux dire.
Ben oui. Et ça, dans l'expérience mystique, tu as ça aussi. Hein. L'expérience mystique, c'est sans drogue, mais le désir d'atteindre des états de ce type. Ah oui, 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 d'accord. Mais ça, c'est Dieu qui permet, c'est autre chose. Hein. Ça, c'est... Et alors, par contre, tous ceux qui ont fait ces expériences-là disent une chose. C'est que ils sont arrivés à une espèce de barrière. Bon, ils l'expriment par des mots. Hein, mais si tu veux, à un moment où le Seigneur leur dit, ben, est-ce que tu veux retourner sur terre ou pas, ou carrément qu'il leur dit, retourne sur terre, hein, d'une manière impérative, quoi. Hein. Mais si tu veux, que s'ils étaient conscients que s'ils avaient passé cette frontière, ils n'auraient pas pu revenir. Tu vois?
Dans la Bible, il y a quand même une interrogation quand Saül va interroger Samuel qui est déjà mort.
Ça, on en parlera. Ça, on en parlera. Ah, oui, 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 justement. Mais c'est sûr que là, il y a des choses.
Parce que par rapport à ça, ben, comme vous disiez, des Sadducéens, ils disent qu'il n'y a ni rien. Ben là.
C'est certain, si vous voulez. Bon, là, on touche à un domaine là, sur lequel il faut s'aventurer avec beaucoup de prudence. Hein, parce que, bon, là, encore une fois, c'est le domaine impur. C'est un domaine impur. Tout ce qui touche au domaine de la mort, c'est l'impureté. Hein, l'impureté suprême. Mais, si tu veux, tous les peuples, et même les plus primitifs et les gens comme ça, croient aux fantômes. Hein, c'est-à-dire, la possibilité de soit de communiquer avec les esprits des morts, soit que les esprits des morts puissent se manifester d'une manière ou d'une autre pour les vivants. Et là, l'exemple que tu cites de Samuel montre que la Bible dit que c'est possible. C'est possible, par certaines techniques, de provoquer des choses comme ça. Mais alors, à ce moment-là, c'est extrêmement grave pour deux raisons. Parce que justement, logiquement, là, on touche à des choses auxquelles l'homme vivant ne peut pas. Là, il se met sous l'emprise des puissances des ténèbres qui règnent sur le domaine de la mort, parce que quand même, Satan est celui qui est le prince de la mort. Hein. Et deuxièmement, parce que justement, on trouble. Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ? Alors, Blumhardt, alors c'est pareil, c'est très très prudent. Vous savez, Blumhardt qui avait fait des expériences dans ce domaine-là aussi, cette jeune fille, vous savez, qui était possédée, alors il avait parlé avec le démon, peut-être c'est pas la meilleure chose qu'il ait faite d'ailleurs, mais enfin bon. Et il dit, mais pourquoi es-tu dans cette personne, etc., qui es-tu ? Et elle a dit, bien, je suis une telle qui était décédée il y a quelque temps de ça, et qui avait donc, je sais pas, commis un crime, un truc comme ça, et elle ne trouvait pas de repos, enfin, il y a quelque chose comme ça, quoi. C'est pour ça que là, on est obligé d'être très très prudent par rapport à ces choses-là, très très prudent, hein, parce qu'il y a aussi les légendes, il y a aussi des choses, mais enfin, au-delà des légendes, il y a quand même des choses vraies, manifestement. Et la Bible nous laisse entendre, d'une manière très discrète, ceux qui évoquent les morts, donc c'est possible d'évoquer les morts. L'histoire de Samuel montre aussi que c'est possible. Alors, Samuel, la première chose qu'il dit quand il arrive, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» Lui qui était parmi les morts bienheureux, dans le repos, etc., il a été troublé par cette affaire-là, que Dieu a permise, pour avertir Saül d'ailleurs, hein, parce que vraisemblablement, des invocations de ce type-là ne peuvent pas avoir de prise sur un mort bienheureux. Quoi. Mais c'est sûr, imagine, je sais pas moi, quelqu'un qui est dans la gloire céleste et qu'on vient embêter comme ça pour, tu vois, donc là, je pense que Dieu interdit pour ce qui est des morts justes. Et là, l'histoire de Blumhardt montre que ça pouvait jouer qu'avec des gens qui étaient criminels, des gens comme ça, quoi. Mais c'est possible. De fait, c'est possible. Mais la Bible interdit. Disons, c'est la pire des abominations. C'est le crime le pire qu'un homme puisse commettre, en dehors de l'idolâtrie. D'ailleurs, c'est une forme d'idolâtrie. Évoquer les morts, ça c'est une des choses les pires que les hommes puissent commettre. Bon, autre chose? Et encore une fois, toutes les civilisations ont cette expérience-là. Et avec souvent une crainte, très très grande crainte de ces choses-là. Et les sorciers africains, je ne sais pas, tu n'as pas entendu des choses comme ça, toi, en Afrique? Les sorciers africains sont craints notamment parce qu'ils ont ce pouvoir.
C'est vrai que c'était François, je me souviens, c'était un africain
avec les... Non, c'est très malsain de parler de ces choses-là, et ça, ça ouvre la porte à des influences démoniaques. Même de converser, même d'en converser, oui. C'est pour ça que là, il faut qu'on arrête cette conversation maintenant.
Même
de la part de convertis, oui.